Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de l'Emploi. La Voix de l'Emploi sur Radio Ondaine, une série d'émissions financées dans le cadre de la politique de la ville par Saint-Etienne Métropole et l'État, qui vise à mettre en avant les initiatives locales en faveur de l'emploi, de la formation et de l'activité économique. Pour ce nouveau numéro, nous avons délocalisé nos studios à Rive-de-Gier à l'occasion de la Place de l'Emploi, un village itinérant pour provoquer des rencontres entre des structures du territoire qui recrutent et des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle ou des personnes en recherche de formation. Aujourd'hui, nous allons développer notre propos sur la thématique mobilité et emploi en QPV, les clés de l'inclusion. Et autour de cette table ronde radiophonique pour échanger, nous accueillons Sophie Damon, déléguée de la préfète en charge de la politique de la ville, sur le secteur de Rive-de-Gier notamment. Jean Point, élu en charge des finances, de l'économie et des commerces à la mairie de Rive-de-Gier. Séverine Filliol, directrice de France Travail de Rive-de-Gier. Alban Bessette, du Relais Emploi et donc du CCAS. La directrice du CCS, Nathalie Marcoux, et puis Jean-Marie Pillon, enseignant à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui réalise en ce moment une étude sur le marché du travail de Rive-de-Gier. Alors, on en a déjà parlé sur l'antenne de Radio Ondaine, ce rendez-vous, la place de l'emploi, c'est l'ouverture depuis quelques minutes. Alors, Séverine Filliol, beaucoup de monde aujourd'hui.
Oui, bonjour. On est ravis parce qu'effectivement, les recruteurs, partenaires et candidats sont au rendez-vous. L'affluence continue. On a ouvert nos portes à 13h30. Les candidats patientent pour pouvoir aller rencontrer les recruteurs qui sont présents aujourd'hui.
Alors on en parlait, on l'avait annoncé sur l'antenne de Radio Ondaine, le fait de provoquer ces rencontres-là, c'est un travail partenarial entre France Travail, entre la ville de Rive-de-Gier, entre le CCAS, sur les personnes que vous avez croisées, alors sans dire qui vous avez croisé, mais est-ce que finalement l'appel a été entendu et que vous attendez à croiser ces gens-là qui naviguent autour des différents stands?
Alors oui, effectivement, je pense que l'appel a été largement entendu. À 13h15, il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient en attente devant les barrières. Donc voilà, on est tout juste en milieu d'après-midi, même pas. Et je crois que l'affluence, effectivement, ne désemplit pas. Donc les personnes sont vraiment en recherche de ce type d'événement, l'ont entendu et surtout sont venues.
Alors, l'objectif est donc de provoquer les rencontres entre les structures, entreprises du territoire qui recrutent et puis ces demandeurs d'emploi, ces personnes en recherche de formation. Jean Point, vous êtes élu à la ville de Rive-de-Gier. Si l'on parle de l'activité économique de la ville de Rive-de-Gier, comment on vous la définissez en cette année 2025 et puis sur quelle dynamique elle est?
Tout d'abord, je dois dire que cette initiative, c'est l'objet d'une collaboration étroite entre les organisateurs et la ville de Rive-de-Gier, parce que cet événement nécessite un gros travail en amont de préparation, de réunion. On doit se caler avec les acteurs et aussi avec les chefs d'entreprise, avec les entreprises. Il n'y a pas que les chefs d'entreprise, il y a leurs représentants. On a essayé, ville de Rive-de-Gier, de produire au maximum nos contacts, puisque bien sûr nous sommes, même si l'économie c'est une compétence de Saint-Étienne Métropole, mais les chefs d'entreprise aiment parler au maire ou à son représentant sur toute une série de problématiques. Donc ça c'est le point fort de cette initiative, c'est la synergie, c'est le travail en commun. Rive-de-Gier a une histoire industrielle, je suis obligé de revenir un peu à la genèse. C'était la deuxième ville du département après Saint-Étienne en termes de taille et aussi en termes d'industrie, c'était énorme. Pourquoi ? Parce que le charbon affleurait, la matière première était là, l'énergie était presque sur place. Et il y avait, même si c'était du charbon, il y avait une empreinte carbone diminuée avec la proximité. Et il y a eu un boom dans la transformation du verre, dans l'élaboration et la transformation des métaux. Donc c'est un héritage fort avec... je dirais, une empreinte industrielle très forte. C'est la raison pour laquelle nous gardons des entreprises, même si la crise a fait disparaître ou fusion-acquisition a fait partir de grosses unités, il nous reste quand même un maillage de fournisseurs, d'opérateurs de rendeux, des chaudronniers, des mécaniciens, etc., avec une grosse qualification. Et tout ça, ça a généré une industrie du service. On a des opérateurs, des électriciens, des tuyauteurs, des chaudronniers, etc. Et donc, on a tout cet emploi, tout ce système qui continue à vivre, qui est aujourd'hui en difficulté parce que lorsque vous portez l'opération directement de votre client, vous contrôlez votre marge. Lorsque vous êtes opérateur de rang 2, ça devient difficile parce que vous récupérez le travail qu'on veut bien vous donner dans une concurrence assez féroce. Donc je dirais que la ville de Rives-de-Gier garde son bassin d'emploi encore de gros atouts, même si personnellement je sens une dégradation dans l'activité notamment industrielle. Il semble qu'il y ait un tassement lié notamment au monde de l'automobile qui se pose toute une série de questions. Des biens d'équipement, il reste le nucléaire qui marche fort dans l'industrie. Et on a aussi là des opérateurs de rang 2 qui travaillent pour l'industrie nucléaire. Là, c'est très bien. Et ensuite, on a toute l'offre à la personne, les services, où je pense, là, nous sommes assez bien dotés. Et on a un œil particulièrement vigilant sur ce secteur d'activité.
Alors, on va revenir au niveau de France Travail. Effectivement, vous êtes aussi en complément, je pense, de ce que vient de dire Monsieur Point, c'est-à-dire que vous êtes aussi en première ligne pour provoquer donc ces rencontres avec ces entreprises et puis ces demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, est-ce que finalement tous les emplois sont pourvus dans entre guillemets les annonces qui sont au sein de France Travail et puis qui sont ces personnes qui y répondent?
Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, un certain nombre de secteurs connaissent des difficultés de recrutement, tant par la technicité des emplois qu'ils proposent que par les compétences détenues aujourd'hui par les chercheurs d'emploi. Donc, on a effectivement des efforts, mais tous les acteurs de l'emploi sont mobilisés dans ce cadre-là pour développer les compétences et effectivement apporter des compétences nouvelles, faire évoluer les pratiques de recrutement de la même manière, de façon à pourvoir ces emplois. Pour un certain nombre de secteurs, les offres d'emploi sont publiées et restent publiées sur des durées un petit peu plus longues aussi, de façon à pouvoir mettre en place tous ces process d'intégration et sécuriser le recrutement avec les candidats, notamment en utilisant des outils que nous avons à notre disposition.
L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est sur cette thématique mobilité et emploi en QPV, les clés de l'inclusion. C'était le titre de cette table ronde. Alors, on va définir peut-être avec Sophie Damon, déléguée de la préfète en charge de la politique de la ville, ce qu'est, ce qu'on entend par ces initiales QPV.
Oui, alors les QPV, c'est les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est une politique partenariale qui s'adresse en particulier aux territoires qui concentrent le plus de pauvreté urbaine. Donc il y a deux quartiers politiques de la ville à Rives-de-Gier, le centre-ville lui-même et le quartier du Grand Pont. Un quartier prioritaire, donc le critère, c'est la concentration de la précarité. Et la politique de la ville, c'est une politique transversale qui va s'adresser à ces quartiers-là dans leur développement global, à la fois sur des questions d'emploi, bien évidemment, mais aussi de développement éducatif, développement des loisirs, développement de la culture, l'aspect urbain aussi, sur des questions de mobilité, bien évidemment, et de circulation, d'aménagement urbain, de logement. Enfin, le domaine est très vague, à vrai dire, c'est l'idée d'avoir une vision à 360 degrés. C'est très transversal à la politique de la ville. C'est une caractéristique aussi de la politique de la ville, c'est qu'elle est, elle est partenariale. La politique de la ville, elle se formalise par un contrat de ville qui est signé notamment par l'État et les collectivités locales, donc Saint-Étienne Métropole et les communes, qui s'engagent conjointement autour d'un diagnostic et d'orientation commune. Et la thématique de l'emploi, elle est évidemment fondamentale parce que il faut que le développement économique puisse s'opérer et qu'il puisse profiter à tout le monde, et aussi parce que l'emploi en lui-même, c'est une source d'émancipation sociale, c'est une source d'insertion sociale, c'est une façon de trouver sa place dans la société, puis accessoirement, c'est aussi une façon de gagner sa vie et de sortir de la précarité qui est la caractéristique de ces quartiers politiques de la ville.
Alors, le contrat de ville qui nous amène jusqu'en 2030 s'appelle Engagement Quartier 2030, justement. Ce contrat de ville met en avant, bien sûr, l'emploi dans ces quartiers prioritaires. Et l'on change un peu de façon de faire. C'est l'Allée Vert qui est développée avec de nombreux forums de l'emploi qui s'installent au cœur même des quartiers, des dispositifs aussi itinérants qui vont d'un quartier à un autre. Pourquoi ce changement? Parce que là, on parle de mobilité. À un moment donné, on demandait aux gens de sortir de leur lieu de vie, d'habitation, pour aller à la rencontre de recruteurs, de structures qui pouvaient les accompagner. Quel a été le constat pour, finalement, ce petit virage dans la politique de la ville?
Je dirais qu'effectivement, la mobilité fait partie des trois principaux freins au retour à l'emploi. Les deux suivants sont soit la santé, soit le numérique. La logique de l'Allée Vert s'inscrit pleinement dans le cadre de la loi Plein Emploi qui a été mise en place l'année passée. Et d'autre part, c'est une offre complémentaire aux services déjà existants. C'est de permettre à certains demandeurs d'emploi qui n'osent pas effectivement sortir de leur quartier, pousser la porte d'un établissement public ou d'un établissement pouvant apporter une solution à leurs problématiques, c'est de leur offrir une solution à portée de main, peut-être même apporter des idées novatrices pour effectivement rompre un petit peu cet isolement et montrer que les services publics de l'emploi et les services de l'État tout confondus ont évolué et peuvent les accompagner dans leur démarche quelle qu'elle soit.
Alors, un poste qui existe dans différentes villes de Saint-Étienne Métropole, c'est celui de relais emploi, ici représenté à Rive-de-Gier par Alban Bessette. Donc, vous êtes relais emploi ici à Rive-de-Gier. Vous faites partie également du CCS. On en parlera avec Madame Marcoux. Qu'est-ce que c'est ce poste et cette activité-là, ce rôle-là de relais emploi?
Alors, mon rôle de relais emploi à Rive-de-Gier, c'est de permettre d'accueillir des personnes en recherche d'emploi ou dans un processus de remise en mouvement de retour à l'emploi, de faciliter ce chemin. Donc, je commence à les recevoir d'une manière inconditionnelle. Ensemble, on met en place un diagnostic. Et suite à ce diagnostic, je vais les accompagner sur leur premier chemin. Alors ça peut être bien sûr une inscription au droit commun, parce que c'est important qu'ils s'inscrivent aussi, que ce soit à France Travail, Mission Locale ou ailleurs. Et puis avec eux, voir comment ils s'imaginent et se projettent à l'emploi. Et suite à ça, j'ai tout un réseau partenarial. Il y a tout un groupe de travail qui est à Rive-de-Gier, enfin dans le Gier, et ensemble, je les mets en mouvement et je les oriente.
Alors, sans dresser le portrait type, parce qu'il n'existe pas, mais quelles sont les personnes qui viennent vous voir? On en parlait tout à l'heure en antenne, beaucoup de femmes, et on parlait de freins à l'emploi, et le premier frein, c'est d'avoir ce déclic en disant « je peux travailler ». C'était voilà, aussi le premier obstacle que ces femmes-là peuvent aussi se mettre devant elles.
C'est vrai qu'au niveau des femmes qui sont souvent mamans solo, elles ont des freins concrets. Et se projeter à l'emploi quand on doit gérer une maison, avec toutes les contraintes et les réalités que ça demande, avoir un espace pour se projeter à l'emploi, c'est compliqué. Et justement, par ma fonction, je les accompagne dans un champ des possibles. Ça va peut-être mettre 3 mois, 6 mois. Par le biais de formation, par le biais de partenariats, par le biais de rencontres comme aujourd'hui, et laisser peut-être autant que leur enfant grandisse pour obtenir une place à la crèche, se soigner s'il y a besoin de soins et être suffisamment prête pour un retour à l'emploi. Et puis il y a aussi des personnes en fracture numérique. Effectivement, utiliser l'ordinateur, c'est compliqué. Ils viennent me voir, on réactualise un CV, on modernise à la mode, une lettre de motivation, parce que ça aussi c'est important. Et puis je vais les voir une fois, peut-être 3-6 mois plus tard, pour réactualiser ce CV, parce qu'ils ont trouvé un travail en intérim.
Alors, est-ce qu'il y a un engagement des personnes qui viennent vous voir et est-ce qu'on signe, entre guillemets, un contrat d'accompagnement ou est-ce que on vient librement et on fait appel à vous d'une manière ponctuelle?
Alors, toutes les personnes qui poussent la porte et qui souhaitent me rencontrer, c'est qu'elles ont l'idée du mouvement d'un retour à l'emploi, avec toutes les appréhensions que ça peut représenter. C'est vrai qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a rien de figé, donc je les accueille. J'apprécie qu'elles respectent au moins leur rendez-vous, parce que c'est un contrat tacite. Moi, je suis présente. J'apprécie que ces personnes puissent au moins commencer par honorer leur premier rendez-vous. Et ensuite, non, elles cheminent. Vulgairement, elles ne me doivent rien. Elles le font dans leur propre volonté. Et elles cheminent pour elles. Et uniquement pour elles.
Alors, les relais emploi, c'est une spécificité territoriale. Alors, Sophie Damon, comment ça évolue depuis sa création? Quel regard vous portez justement sur ces relais emploi dans ces différents quartiers? Quels sont les bilans que l'on fait d'année en année?
Alors, le relais emploi, le dispositif relais emploi, au fond, il n'est pas si nouveau, mais en tout cas, il s'est développé il est en train de se développer sur tout le territoire de la métropole dans la géographie prioritaire, dans la géographie de la politique de la ville. C'est un accueil de proximité et justement, on se dit qu'il faut faire cette démarche d'aller vers jusqu'aux personnes et lever les freins à l'emploi, parce que dans le service de droit commun, dans tout le service public de l'emploi et dans tout ce qui est mis en œuvre, toutes les politiques publiques, il existe déjà bien évidemment des structures qui y accompagnent. C'est le rôle de France Travail, c'est le rôle des missions locales pour les jeunes, mais bien souvent, on s'en est compte qu'il y avait un petit maillon dans la chaîne qui fonctionnait pas, et d'avoir une personne en proximité qui vient dans les quartiers, qui assure des permanences, qui vient comme par exemple Alban au Resto du Cœur à Rive-de-Gier, ça permet de donner une petite accroche supplémentaire avec les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, parce qu'avant d'arriver à la question de l'emploi, il faut déjà oser se projeter se projeter dans l'emploi comme le disait Alban, mais il faut aussi arriver à lever tous les autres freins, comme la santé, elle l'a évoqué, la question aussi de sa propre mobilité, bien évidemment, puisque c'est le sujet, la garde d'enfants aussi, qui peut aussi se lier à la question de la mobilité. Si par exemple la crèche, elle se trouve un petit peu loin, que les horaires de la crèche ne sont pas adaptés avec vos horaires, si par exemple vous travaillez en poste à l'usine ou si vous faites des ménages en dehors des horaires de bureau, de toute façon, il va falloir que soit votre moyen de garde de votre enfant soit à proximité, soit qu'il soit complètement attrapé. En fait, quand on est dans la précarité, on cumule les difficultés parce qu'on n'a pas de voiture, parce qu'on habite peut-être dans un lieu qui est plus loin des transports en commun, parce que peut-être on a des qualifications qui font que l'emploi qu'on va trouver, il va peut-être être un petit peu plus loin ou dans des zones plus périphériques. Que souvent, quand on est dans la précarité, il arrive souvent qu'on est dans les quartiers prioritaires, des familles monoparentales, bien souvent des mamans qui ont des problèmes de garde, qui ont aussi des problèmes éducatifs avec une charge mentale qui est particulièrement conséquente. Et il faut arriver à déposer tout ça de côté pour arriver à se projeter dans l'emploi. Et c'est pour ça que c'est assez précieux qu'on ait ce dispositif de relais emploi qui s'évolue encore davantage et sans pour autant aller sur le terrain de France Travail et de la mission locale qui eux sont beaucoup plus chargés de l'appariement entre l'offre d'emploi et le candidat. Donc il y a un maillage qui est à trouver. Si Alban elle arrive à faire en sorte qu'une des personnes qu'elle accompagne trouve un emploi, tant mieux, mais son rôle c'est pas celui-là directement. Le rôle d'Alban c'est d'orienter les personnes éloignées de l'emploi vers le service public de l'emploi.
Et là, la question de la mobilité s'impose parce que finalement, c'est un frein à aller au travail, à aller faire ces démarches-là. Quand vous avez imaginé ce thème aussi de mobilité, qu'est-ce que vous entendez, par exemple, du point de vue de France Travail? C'est quoi la mobilité?
Je crois que quand on parle de frein à la mobilité, il y a deux dimensions qu'il faut considérer. Il y a la dimension effectivement physique, la mobilité physique du déplacement, mais également la dimension psychologique de la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la mobilité, pour certains, se résume à « je n'ai pas de véhicule ». Il existe tout un réseau de services publics qui peuvent permettre de se déplacer, d'accéder à l'emploi, etc. Mais lorsque l'on touche, et c'est plus, subtil et plus délicat que de toucher à la mobilité psychologique, le frein psychologique à la mobilité, et particulièrement en QPV, c'est de sortir déjà de son quartier, ne serait-ce que pour aller faire ses courses, pour accéder à du loisir. Ça, c'est des éléments qui sont hors du champ de l'emploi. Donc, à France Travail, on est là aussi pour accompagner sur ce qu'on entend par frein à la mobilité, reprendre, et c'est aussi ce que fait Alban par ses accompagnements, hein, reprendre les réseaux des transports en commun. Voilà, comment c'est desservi, ce que coûte un billet de bus, comment je peux me déplacer en train. Et on a aussi des aides au permis de conduire. Mais derrière, ça s'entend aussi sur comment, bah, une fois que j'ai acquis le permis de conduire, comment je peux financer un véhicule. Donc derrière, ça touche aussi à la question budgétaire.
Alors, autour de la table, nous avons Jean-Marie Pillon, enseignant à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Vous êtes en train de mener une étude sur Rive de Gier, c'est le marché du travail à Rive de Gier, avec l'agence Épure en partenariat. Mais la question de la mobilité est quelque chose que vous avez également travaillé. Alors vous, en tant qu'enseignant, chercheur, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là, mobilité ?
Alors, La question de la mobilité, elle a été davantage travaillée par mes collègues, mais elle a aussi des enjeux importants sur l'emploi. Et en matière d'emploi, la question de la mobilité, elle est compliquée parce que c'est d'abord un symptôme. Le manque de mobilité, c'est un symptôme de l'éloignement du marché du travail. C'est le fait d'être éloigné du marché du travail qui va compliquer la mobilité parce que, ben, tout simplement, quand on ne travaille pas souvent, on n'a pas les moyens d'entretenir une voiture. La mobilité douce également va pas forcément permettre d'accéder à des centres d'emploi. Et puis les questions des transports en commun, etc., elle peut régler un certain nombre de problèmes, mais les transports en commun vont pas toujours au pied des entreprises, pas forcément sur les bons horaires, etc., etc. Donc les difficultés de mobilité, c'est d'abord un symptôme de l'éloignement de l'emploi. Mais ensuite, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a cette question des horaires que j'évoquais, et puis cette question qui a été évoquée à plusieurs reprises, la question des codes. En fait, apprendre les codes du fonctionnement des réseaux de transport, etc., etc. Et là où cette question de la mobilité, elle est compliquée pour aller plus loin, c'est que finalement, elle est aussi pas simplement un symptôme des difficultés individuelles, elle est aussi un symptôme de difficultés plus, enfin de reconfiguration, de transformation plus collective. C'est le fait que, en fait, si la mobilité individuelle est devenue si importante, c'est lié aux transformations de l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'heures d'embauche, il n'y a plus d'heures de débauche, il y a une individualisation des trajectoires, une individualisation des contrats, une individualisation des périodes de présence dans l'entreprise, notamment quand on travaille en intérim ou sur des contrats à durée déterminée, qui vont conduire à devoir trouver des solutions individuelles quand, auparavant, il y avait des solutions collectives qui permettaient de se faire transporter, soit par l'employeur, soit par un collègue, etc. Donc, en fait, c'est devenu un problème parce que, à présent, chacun doit travailler à la fois sa trajectoire individuelle et ses capacités de mobilité également de manière individuelle.
Alors, sur votre étude en cours sur le marché du travail de Rive de Gier, quels sont les axes sur lesquels vous êtes engagé finalement? Où en est cette étude-là? Pourquoi la faire aussi? Quels sont ces avancements aujourd'hui?
Alors, on est vraiment au milieu, donc ça va être très difficile de vous donner des résultats, parce qu'on a commencé à collecter, on doit être à la moitié de la collecte des données, et on les a pas encore analysées. Hein, donc, les éléments que je livre à ce stade, c'est plutôt de se rendre compte que Rive de Gier n'est pas un cas particulier, et que ce qui arrive aux habitants de Rive de Gier, c'est en fait le croisement, c'était évoqué tout à l'heure, en fait c'est le croisement d'un certain nombre de transformations qui sont communes à plein de territoires, et ou qui vont se croiser sur le territoire de Rive de Gier. Donc il y a cette question, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, question des reconfigurations des entreprises et de l'économie qui font que quand on a plutôt des entreprises de rang 2, en fait on va avoir des gens qui ont beaucoup moins de marge de manœuvre en termes d'embauche, ne serait-ce que sur les types de contrats qu'elles peuvent proposer. Et donc ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que là aussi, si on offre surtout des contrats à durée déterminée, bah en fait ça fragilise aussi l'établissement dans l'emploi des personnes. Il y a aussi la question de cette double périphérie, à la fois vis-à-vis de Lyon et à la fois vis-à-vis de Saint-Étienne, qui va faire que, bah, de fait, on peut les CV déposés peuvent passer derrière des gens qui seraient plus prêts, qui seraient plus disponibles, etc. Donc ça va créer des problèmes de disponibilité. Et puis peut-être le dernier élément, c'est tout simplement sur le fait que, et je le répète à qui veut l'entendre, c'est que la majorité des gens travaillent, la majorité des gens se déplacent, et que simplement dans certains territoires où se croisent les difficultés, ou en tout cas les complexités, eh bien effectivement, il y a plus de personnes qu'ailleurs qui sont en difficulté, il y a plus de personnes qu'ailleurs qui ont des difficultés d'accès à l'emploi, mais ça reste une minorité.
Ouais. Alors, vous êtes au milieu de cette étude-là. D'ailleurs, elle est commandée par qui ? Et qu'est-ce que vous faites, en fait, de ces résultats, de ces études qui bénéficient, finalement, des conclusions dans lesquelles vous arrivez ?
Alors, c'est un cas très intéressant, au sens où moi, c'est le genre d'études que j'ai l'habitude de faire, mais pour mon propre chef ou pour des commanditaires tels que la Banque des Territoires ou ce type d'institution qui essaie de comprendre un territoire en particulier. Mais en l'occurrence, c'est pas venu de moi. C'était une interrogation de la part des services de la ville de Rive-de-Gier qui se posait la question sur le rapport à l'emploi des personnes qui vivent en QPV. Et c'est arrivé aux oreilles de l'agence d'urbanisme qui a dit mais on a des capacités d'enquête qualitative, faisons-le pour une fois, faisons du qualitatif. Et à titre personnel, moi je venais d'arriver sur le territoire parce que je suis enseignant à l'université de Jean Monnet de Saint-Etienne depuis un an et demi maintenant. Et voilà. Moi aussi j'ai entendu parler et j'ai dit bah, travaillons ensemble. Eux ils étaient d'accord, ils avaient envie. Et on s'est lancé là-dedans et on essaye de rencontrer le plus d'acteurs possible.
Voilà. Alors, revenons sur la ville de Rive-de-Gier. Je ne sais pas si, Monsieur Point, vous êtes concerné directement par les résultats de cette enquête, mais une fois que cette enquête qui a été commanditée, qui a été faite, une fois les résultats, quand ils vont vous parvenir, quels sont les leviers, vous, ensuite, sur lesquels vous pouvez actionner parce qu'on parle d'entreprises privées. Quand on parle d'emploi, on parle d'emploi aussi privé dans une grande partie des cas. Et là, est-ce qu'une municipalité a un pouvoir d'action ?
Alors, le pouvoir lié à l'emploi, il est complètement métropolitain. Mais on ne va pas échapper à nos responsabilités parce que les personnes qui habitent Rive-de-Gier, on les pratique au quotidien. Non, la première chose, c'est le constat. Qu'est-ce qu'un QPV ? Je dirais, à mon sens, un lieu de souffrance, et notamment le centre-ville. On y souffre, on n'y est pas bien traité, on a un niveau de vie qui est très bas, je ne vais pas faire du misérabilisme. Vous l'avez évoqué, je ne sais plus qui, on a beaucoup de familles monoparentales et de mamans qui élèvent seules leurs enfants, et on y est captif. Pourquoi ? Parce que le centre-ville, le QPV, le centre-ville de Rive-de-Gier, c'est essentiellement de l'habitat privé et les loyers sont bas, donc on peut pas en sortir. Et on pourrait s'en sortir avec l'emploi, donc c'est la raison pour laquelle la mobilité c'est un frein. Ensuite, moi je plaide pour que l'État qui a décidé de mettre les moyens, j'en profite, vous êtes là pour passer un message. Sur les QPV, sur les deux QPV de Rive-de-Gier, donc avec la priorité maintenant du centre-ville, je pense qu'on pourrait aller plus vite. On a quand même un travail conséquent avec Cap Métropole, avec les services de Saint-Étienne Métropole, pour gentrifier, pour renouveler, ressourcer l'habitat, pour démolir, reconstruire et faire en sorte qu'on ait une vraie mixité, mais ça nous prend énormément de temps. Beaucoup de temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se posait aussi la question comment ces chères ripagériennes, ripagériens qui sont captifs, qui sont prisonniers, qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont des conditions de revenus difficiles et parce qu'ils payent un loyer relativement bas versus le logement social dans le centre-ville, comment faire en sorte qu'ils s'en sortent justement avec un emploi ? Et bien sûr, se poser la question des accès. Les donneurs d'ordre, ils ne sont pas tous à Rive-de-Gier, ils sont sur la Grande Vallée. Il faut aller souvent à Saint-Étienne, il faut aller en périphérie de Lyon. Et cette question, cette étude avec Épure, elle avait toute sa pertinence.
Ensuite, au-delà de ce qu'on en fait dans la ville de Rive-de-Gier, est-ce que cette étude-là aussi, vous parliez hein, d'un élargissement, est-ce que c'est aussi pour montrer, faire constater peut-être au niveau de l'État des difficultés et peut-être demander, alors je ne sais pas, des moyens supplémentaires ou tout au moins développer, expérimenter de nouvelles choses?
Oui, ça, c'est compter sur nous, compter sur les élus de la ville de Rive-de-Gier pour être opiniâtre. Alors, je ne vais pas dire exiger, c'est un verbe trop fort, mais pour demander ce qui est dû pour les habitants. Et objectivement, si on veut être crédible, il faut le faire avec des éléments objectifs. On ne peut parler, si ça existe, ça se mesure. C'est la raison pour laquelle nous, on tient beaucoup à cette étude, parce qu'on est quand même davantage outillés, si j'ose dire, si on doit porter la parole auprès des services de l'État. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Revenons sur cette discussion. On est quand même conscient que quand on parle d'emploi, on est ultra dépendant finalement des industries présentes, de leur volonté de recruter, de leur mobilité à elles-mêmes aussi, hein, de se dire qu'un site devra fermer parce qu'il ne rentre plus dans la rentabilité. C'est un peu compliqué et puis ce sont des choses que chacun d'entre nous ne pouvons pas forcément totalement gérer. Aujourd'hui, si l'on parle du CCS, pour terminer un peu sur en parlant de ces personnes qui sont en difficulté, difficulté sociale, difficulté avec tout ce qu'on entend, d'une manière générale, quelle vision vous avez sur votre action? Alors c'est faire votre propre bilan, mais qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Qu'est-ce qu'il faut faire perdurer dans les actions du CCS, notamment avec tous ces agents, et on parle d'Albane au niveau du relais emploi?
Alors là, c'est un sujet extrêmement vaste, hein, puisque un CCS est un établissement public administratif qui a vocation de mettre en place une politique sociale sur la commune et dans différents champs. Donc on ne va pas aller là-dessus. Par contre, ce que je peux en retenir, ce qui est important pour le CCS, c'est d'être en lien avec ses partenaires, c'est de comprendre son territoire. Et voilà pourquoi, lorsque la ville a émis l'idée d'une étude, j'ai sauté sur l'occasion pour dire oui, on a besoin de comprendre ces territoires et de sortir des idées qu'on en a d'eux, parce que c'est pas ça qui nous aide au quotidien. Donc finalement, d'avoir des données chiffrées, des données qualitatives également pour mieux comprendre les comportements, les peurs, les freins, etc. Nous, concrètement, on va s'en saisir. On s'en saisit déjà avec les partenaires de terrain, que ce soit l'État, Saint-Étienne Métropole ou les partenaires de l'emploi France Travail, pour se dire concrètement, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire. À notre niveau, on a quand même pu consolider les postes de relais emploi, consolider leur fonction, leur travail avec maintenant la loi plein emploi qui chamboule un petit peu quand même les opérateurs de l'emploi. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est comprendre notre territoire, être veillé à toutes les petites modifications qui peuvent avoir lieu, parce que c'est ça que tous les centres de recherche nous demandent, hein, à chaque fois, c'est est-ce que vous avez des petites subtilités, des petits changements. Les observateurs sont très friands de ces demandes-là, et régulièrement on répond à un certain nombre de questionnaires sur ces thématiques, et puis donc c'est d'être en soutien, en écoute avec la population également, et aujourd'hui être dans l'action concrète. C'était ça aussi qui était important pour nous. Une fois qu'on est là, qu'on a compris, qu'on est en lien avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sur le terrain avec eux, parce que seul on ne peut pas, à plusieurs on est bien plus fort et on le voit aujourd'hui, et donc de mettre en place des actions. Alors il y a ça aujourd'hui, demain il y a autre chose, voilà, c'est d'être vraiment actif sur le terrain, et c'est ce terrain qui nous fait remonter aussi les besoins.
Et puis donc cet événement, la place de l'emploi, amène à se dire finalement qu'on n'est pas forcément seul et isolé, parce qu'on a des rencontres, on est accueilli à l'entrée et on retrouve des recruteurs, mais également différentes personnes de services, que ce soit des services municipaux ou que ce soit encore France Travail, etc.
Oui, et puis je le répète et je l'ai dit l'année dernière, hein, la vallée du Gier n'est pas une vallée sinistrée, c'est une vallée active, il y a des entreprises, on est allé chercher les entreprises, un certain nombre de personnes nous ont aidé à aller les chercher, on les a invités à venir nous rencontrer au préalable pour, parce qu'ils n'ont pas le temps, hein. Ils sont en train d'essayer de faire survivre leurs entreprises, ils essayent de recruter, ils essayent plein de choses, donc nous c'était vraiment d'aller chercher ceux qui ont besoin aujourd'hui de travail et d'être avec eux aussi.
Bon, en tout cas merci d'avoir participé à cette émission La Voix de l'Emploi sur Radio Ondaine, merci à Séverine Filliol, merci à Jean-Marie Pillon, merci à Jean Point, merci à vous Nathalie Marcoux, merci Alban Vessette et merci également à Sophie Damon, déléguée de la préfète en charge de la politique de la ville. Merci à vous.
La Voix de l'Emploi, une série d'émissions consacrée à la valorisation des acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Ce projet, réalisé par Radio Ondenne, est financé dans le cadre de la politique de la ville par l'État et Saint-Étienne Métropole.